Bonjour à tous pour cette première émission de l'année 2026. Cette nouvelle année, je suis en compagnie d'Alain Castan, maire de Rouffignac de Sigoulès. Donc, avant tout, je voulais souhaiter à tous nos auditeurs tous nos voeux pour cette nouvelle année. J'espère que Alain aussi, tu...
Ben moi, je vais dire bonjour et puis bien si pourquoi je suis le seul élu aujourd'hui à notre réunion, pour la bonne raison que mes collègues, c'est très difficile aujourd'hui de discuter aussi bien à la radio que dans les journaux, parce que nous sommes un peu en réserve puisqu'il y a les élections de mars qui arrivent et donc on ne peut pas parler de choses qui nous concernent personnellement dans nos communes. Donc quelque part, aujourd'hui, nous allons parler de choses intéressantes, mais surtout de choses qui sont plus générales que locales. Alors bonjour et bien sûr tous mes voeux aux auditeurs de RLP, parce que ça fait maintenant un moment que nous sommes sur ces zones, nous y plaisons, et je sais que nous plaisons aux auditeurs. Donc quelque part, je tiens à remercier, puisqu'elle est devant moi la directrice, et donc bonne année, bonne santé. Et puis surtout beaucoup de choses pour notre ruralité.
Donc on va commencer par l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la neige. Alors c'est vrai qu'en Dordogne, on n'est pas trop soumis à cet aléa climatique. Mais bon, on a beaucoup de maires ruraux dans les départements voisins qui sont confrontés à cette situation. Et j'ai vu quelques petits reportages à la radio ou à la télévision où on remettait encore une nouvelle fois en avant le rôle des maires dans ces difficultés. Tu as un petit mot à dire sur cette question-là ?
Ah mais Gérard, tu tombes dans le mille. Tu tombes dans le mille parce que... C'est vrai qu'aujourd'hui, le département, on est moins touché que d'autres départements. Mais dans les autres départements, j'ai des collègues et je discute avec eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les aléas climatiques font que les premières aides des communes rurales, parce qu'on voit dans les grandes villes, ils ont des services, ils ont tout un tas de choses pour intervenir très rapidement. Nous, dans les communes rurales, qui c'est qui viennent nous aider en premier ? Eh bien, nos agriculteurs. Nos agriculteurs et nos paysans. Et c'est vrai que là, c'est là qu'on se rend compte que nos agriculteurs sont utiles. Et justement, on en a une quarantaine qui monte à Paris parce qu'ils sont mécontents. J'ai déjà pris la parole sur les ondes ou sur les journaux pour les défendre. Et c'est une façon aussi de dire que si nous n'avions pas dans nos communes rurales les agriculteurs, eh bien aujourd'hui, la neige, c'est avec des pelles qu'on l'enlèverait. Et le maire est tout seul avec sa pelle et son conseil municipal. Alors que les agriculteurs ont de l'outillage qu'ils mettent bien volontiers au service de nos administrés et eux de leurs voisins et de leurs communes. Et ça, moi, je veux les saluer parce que encore une fois, on se rend compte que nos agriculteurs, on a vraiment besoin d'eux.
Et oui, parce que bon, on s'aperçoit des difficultés. On a beaucoup dans nos campagnes de personnes qui ont un certain âge, qui sont en difficulté, qui ont besoin de soins. Et on a par exemple les infirmières libérales qui ne peuvent pas forcément ou difficilement vont se rendre chez ces personnes pour pouvoir apporter les soins, alors qu'en ville, c'est beaucoup plus facile. Donc faudrait peut-être analyser quels moyens on pourrait donner aux communes pour pouvoir répondre aux questions de services publics et de santé de nos anciens, entre autres.
Ben, si j'ai un peu d'humour, je pourrais te dire que je l'ai déjà vu, hein, d'un agriculteur qui fait monter une infirmière libérale dans son tracteur pour l'amener faire son service chez une personne âgée. Donc c'est ça, la vraie solidarité. Alors c'est vrai que je le dis avec un peu d'humour, mais quelque part, c'est vrai que nos infirmières, nos médecins, nos pompiers, nos agriculteurs, dans la campagne, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'en termes de mobilité, là, il n'y a qu'une façon de se mouvoir dans nos communes rurales, c'est la voiture. À Paris, ils n'ont pas compris ça.
Donc, on le prend par exemple avec ces phénomènes de neige qui... la neige se pose sur les lignes électriques, qui tombent, il n'y a pas d'électricité. La difficulté pour les agents d'Enedis de se rendre sur place, parce que quand il y a 30 cm de neige, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on voit le rôle du maire ici dans la coordination des moyens pour pouvoir répondre à différentes situations que rencontre sa population.
Quoi. Donc c'est... Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que quelque part, c'est là qu'on voit la vraie solidarité. C'est-à-dire que si vous allez dans une commune très, très, très urbaine, telle que la métropole de Bordeaux, c'est vrai qu'on connaît pratiquement pas ses voisins. À la campagne, tout le monde se connaît, tout le monde est solidaire, aussi bien de la personne âgée que de l'enfant, que de la personne malade. Et c'est vrai que... Et puis du maire, bien sûr, parce que, comme je le disais, je viens de faire un reportage sur le journal Sud-Ouest, sur le panassage. C'est vrai que je disais que, encore une fois... Le maire d'une commune rurale, tout le monde le connaît par son prénom. On ne le connaît pas par son nom, on le connaît par son prénom. Allez faire ça à l'Assemblée nationale. Vous ne le verrez pas. Donc, quelque part, ça veut dire que les gens aiment leur maire. Et alors, bien sûr, il y a quelques cas un peu marginaux où les maires ne réussissent pas. Mais quand le maire ne réussit pas et qu'il n'a pas au moins d'empathie pour sa commune, ce n'est pas quelqu'un qui va rester très longtemps.
Et on sait pertinemment, pour revenir sur la question du palaisage, en général, dans les petites communes, un des plus mal élus, même s'il est beaucoup apprécié, c'est le maire. Parce que bon, il a suffi qu'une fois, il dise non à un projet pour qu'il soit rayé. Sauf qu'aujourd'hui, avec le mode de scrutin par liste, simplement de rayer le nom du futur maire fait que ça annule toute la liste.
Mais c'est ce que je dis. Le règlement de compte, c'est fini. Parce que souvent, le panachage, c'était les règlements de compte. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut bien que les administrés d'une commune comprennent qu'une élection municipale, c'est une commune, c'est un maire et c'est un projet. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, quelque part, si c'est une querelle de personnes, ça ne peut pas marcher. Donc là, on y est. Je pense que le mauvais citoyen qui veut régler son compte, il va en même temps régler son compte, mais il va régler le compte de toute une liste. Donc ça va l'amener à réfléchir. Alors bien sûr, il y en aura tout le temps. Il y a toujours des marginaux. Mais c'est à la marge. Comme je dis, c'est vraiment à la marge. Et je pense que ça va pas être, s'il y a 1 ou 2% de listes qui sont éliminées à cause de ça, ça sera un maximum. Donc quelque part, les listes, ça va bien se dérouler, l'élection se passera bien, d'autant plus que moi, ce dont je me bats depuis très très longtemps et qui est important parce que c'est quand même normal. Moi, je pense que même il y a même plus de femmes maintenant que d'hommes dans les communes. Et il fallait laisser toute leur place aux femmes qui sont souvent des gens pragmatiques et qui amènent de bonnes solutions et de bons débats dans les conseils municipaux. Et moi, ça ne peut que me ravir.
Donc, tout à fait d'accord avec toi sur la question de la parité, même si ça pose actuellement quelques problèmes pour certaines communes d'avoir cette parité, parce que ce n'est pas toujours évident de permettre à ce que ces femmes puissent s'intégrer, voire, dans certains cas, c'est qu'il manque un paquet d'hommes.
Non, mais c'est vrai, moi je le reconnais, j'ai autant de femmes que d'hommes dans mon conseil, et c'est souvent avec les femmes que j'ai le plus de débats, parce qu'elles ne sont pas toujours d'accord avec ce que je dis, avec ce que les gens du conseil disent, mais elles ont ce pragmatisme qui leur vient un petit peu du fait que elles savent gérer déjà une famille, c'est souvent comme ça, et c'est vrai qu'elles amènent, alors pas dans le désordre, mais dans le bon sens, elles amènent des solutions que souvent les hommes ne pensent pas, et c'est vrai que quelque part c'est un plus pour une commune. Donc moi je le dis, je suis très déjà aujourd'hui, j'ai eu le problème de la parité. C'est pas tellement le fait d'aller chercher des femmes, c'est le fait que, comme on arrive dans un premier mandat de scrutin de liste, c'est d'être obligé d'enlever des hommes qui travaillaient. Parce que ça aussi, c'est bien sûr, quand vous avez une équipe de 11 personnes et qu'il y en a 10 qui travaillent, c'est difficile de dire à 4, il faut que tu t'en ailles parce qu'il y a la parité. Ça aussi, c'est un réel problème. Mais quelque part, il fallait une étape. L'étape, elle est là. Moi, je suis très fier d'y avoir participé. Mais vous verrez que dans le prochain mandat, alors ça ne sera que dans 6 ou 7 ans, mais dans le prochain mandat, tout ça sera effacé.
Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des maires qui, dans les communes rurales qui prennent l'appel pour désabler, pour enlever la neige, on s'aperçoit que le rôle d'un maire dans une petite commune, c'est presque 500 communes sur le département, en dehors de Périgueux et Bergerac, où là il y a des services techniques, c'est tout le débat aujourd'hui sur quel statut pour l'élu, pour le maire. Parce que aujourd'hui, un petit maire d'une petite commune de 300, 400, 700, moins de 1000 habitants, il se tape tout, quoi.
Déjà, tu te trompes, Gérard. Ce n'est pas des petits maires, ce sont des maires de petites communes. Mais ils ont la même puissance et le même pouvoir qu'un maire de Marseille ou de Bordeaux. Mais c'est vrai ce que tu dis, que... Alors ce fameux statut, on s'est battu, nous, la MRF, pour l'avoir. Alors on a cette chance-là d'avoir un président aujourd'hui qui est devenu ministre du délégué à la ruralité, Michel Fournier. Et il a mis en place déjà au sein du gouvernement. Alors c'est vrai qu'il est regardé du coin de l'œil par ses collègues des ministères d'État, mais il se bat. Et la première chose qu'il a obtenue avant les élections, c'est le nouveau statut de l'élu. C'est vrai que quelque part... ce qui est important dedans, c'est que c'est pas seulement l'indemnité du maire qui est très basse, mais elle sera légèrement augmentée et avec aussi la décision du conseil municipal, ils seront pas obligés de le faire. Mais ce qui est important, c'est que tous les conseillers municipaux aujourd'hui qui auront une délégation pour aller dans un syndicat seront remboursés de leurs frais de déplacement. C'est quand même un grand plus. La deuxième chose, c'est que ça va obliger, comme les pompiers, exactement sur le même système que les pompiers, quand il y aura une réunion importante, l'employeur sera obligé de libérer son employé pour qu'il aille à cette réunion importante. Ça aussi, c'est un plus énorme. Donc ce statut de l'élu, il n'est pas fait que pour les maires, que pour les adjoints, mais il est fait aussi pour tout le conseil municipal. Et ça, c'est super important. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi le fait...
Juste une petite question par rapport à ça. Ces augmentations ou ces frais supplémentaires seront pris en charge par qui ? Par l'État ou par la commune ?
Elles seront prises, non. Elles seront prises par la commune quand ça concerne la commune, par la communauté quand ça concerne la communauté, et par les syndicats quand ça concerne les syndicats, et par l'État quand ça concerne des réunions d'État. C'est-à-dire que les délégués, je vais prendre un exemple, les délégués de la DETR, qui sont des élus ruraux qui viennent décider du montant de la DETR à la préfecture, les délégués à la CDPENAF, ce sont aussi des élus ruraux qui viennent à Périgueux pour la CDPENAF, eh bien, ils pourront faire donner au préfet une feuille de frais pour être remboursés sur leur déplacement. Donc tout le monde paiera.
D'accord. Non, mais alors, je laisse continuer.
Non, mais c'est une bonne question, Gérard. Non, c'est une bonne question parce que c'est important.
Non, parce
c'est
que important si c'est aux frais de la commune, tous ces frais-là, bon. Il y en a beaucoup qui ne le font pas valoir actuellement
et
qui ne le feront pas valoir.
Dans la commune, je me vois mal, moi, aller rembourser un frais de déplacement à un conseiller municipal qui est à 2 km. Jamais il le demandera. Ce qui est important, c'est quand tu commences à venir de Bergerac ou de Rouffignac ou de Saint-Léon, que tu vas à Périgueux. Ça, c'est un vrai déplacement. Et aujourd'hui, il y a des critères. Eh bien, soit l'État, soit les syndicats seront obligés de le rembourser. C'est la loi.
Non, mais ce qui est important, c'est que ce soit l'État, que ce ne soit pas sur le budget de la commune, parce que...
Exactement.
Actuellement, le dernier projet, c'était sur les indemnités des maires. L'État autorisait d'augmenter les indemnités, mais ça restait sur le budget de la commune.
C'est ce qui faisait le tort de l'indemnité du maire, où le maire était obligé de prendre l'argent sur le fonctionnement de la commune. Là, c'est la commune qui payait. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas pour certaines choses. Mais ça continuera pour les maires, pour l'indemnité. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui accepteront d'augmenter leur indemnité, quoi qu'ils le méritent. Ça, je le dis bien, ils le méritent. Mais ça, c'est en rapport avec le budget communal. Ça regarde le maire et son conseil municipal. Mais il fallait avancer là-dessus. Et puis c'est pareil. Combien de fois j'ai eu, moi, des conseillers qui m'ont dit « À cette réunion, elle est à 17h. Je peux pas venir parce que je bosse et mon patron ne veut pas me laisser partir. » Mais là, il sera obligé de le laisser partir. C'est ça qui est important. Comment ils font, les pompiers? Quand il y a le feu, le patron, il laisse partir le pompier. Hein, sinon, il est regardé de mauvais oeil. Et bien là, ça sera pareil.
— OK. Bon. On va faire notre petite pause musicale. Et on va reprendre ce débat dans...
Alors avant de faire la pause musicale, je voudrais finir sur un ton d'humour. Il y a un maire qui, pendant les aléas climatiques, a pris un arrêté pour interdire à la neige de tomber dans le village. Je trouve que ça, c'est de l'humour qui est très intéressant.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Après notre petite pause musicale, les oubliés, mais bon, on n'a pas oublié de continuer notre émission. Nous allons continuer sur... comme tu l'as dit tout à l'heure, on commence la période électorale pour les campagnes municipales. On a un droit de réserve sur un certain nombre de questions. Mais aujourd'hui, on peut parler de la difficulté d'un certain nombre d'élus qui décident de ne pas se représenter pour X ou Y raisons. La montée de la violence par rapport aux élus, par exemple. La difficulté d'être aujourd'hui maire pour certains jeunes qui travaillent, d'où la nécessité d'avoir un statut de l'élu, parce que ce n'est pas toujours évident quand on est un jeune d'une trentaine d'années travaillant de pouvoir assumer pleinement sa mission de maire, surtout dans une commune rurale. Donc, comment tu vois les choses et comment, sur le département, toi qui es président de l'Association des maires ruraux, as-tu des chiffres qui nous permettent de dire, sur la Dordogne, c'est stabilisé, c'est à peu près, il n'y a pas trop de...
Oui, mais justement, contrairement, on a fait un sondage à la MR, à la MRF, et c'est vrai qu'on constate que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y a plus de maires qui se représentent que lors du dernier mandat. À quelques, à un ou deux points en pourcentage, je crois, de mémoire, qu'il y en a 54% qui se représentent, alors que la dernière fois, il n'y en avait que 52%, quelque chose comme ça. C'est dans ces eaux-là. Mais ça, c'est rassurant. La deuxième chose, c'est qu'à notre congrès du Futuroscope cette année, nous avions décidé de parler surtout des jeunes et de l'engagement, parce que c'est important. Et j'ai entendu quelqu'un à la télévision qui a dit aujourd'hui, il faudrait apprendre à nos jeunes à aimer leur pays, à aimer la France. Ça, c'est quelque chose qui m'a interloqué, parce que je crois qu'il y a, il y a une certaine vérité là-dedans. Moi, je le vois pour... Quand je fais le 11 novembre au Monument aux Morts, j'ai de moins en moins de jeunes. C'est inquiétant. Et c'est vrai qu'il faudrait apprendre aux jeunes. Et c'est pour ça que j'ai envie... Je vais vous lire très simplement l'édito que j'ai fait dans l'agenda que nous remettons à tous les maires ruraux de la Dordogne, qui est important. Et mon édito, il est ciblé sur tous les jeunes. D'ailleurs, j'ai intitulé le titre « À tous les jeunes ». Et j'ai mis que notre association de maires ruraux veut s'ouvrir à la jeunesse avec des enjeux essentiels, la participation et l'engagement dans la vie locale. Ça, c'est essentiel. Une évidence demeure, être jeune doit rester une ambition permanente de dépassement de soi-même en bravant l'interdit, souvent pour le plaisir ou pour affirmer sa personnalité. Utilisons donc au mieux cette énergie. De même que l'atome a d'abord suscité la peur et le rejet avant d'être reconnu aujourd'hui, lorsqu'il est maîtrisé comme une énergie indispensable à la transition écologique et aux besoins croissants liés à l'électrification de nos usages quotidiens, l'énergie de la jeunesse est une ressource très précieuse. Si l'homme et la femme sont devenus les créatures les plus évoluées de cette Terre, c'est en grande partie grâce à la turbulence perpétuelle de leur jeunesse. Rassurez-vous les jeunes, vous avez tout le temps de ne plus l'être. Et je me retrouve pleinement dans cette histoire, car pour devenir sage, il faut d'abord avoir été rebelle. Vous êtes un jeune ou une jeune de nos villages, alors engagez-vous dans votre commune. Voilà un petit peu l'édito que j'avais, il est clair. Il est clair que j'engage les jeunes, que j'incite les jeunes, et même de le faire, d'aller s'engager auprès des listes à la mairie, et même, pourquoi pas, de prendre la mairie. Il faut y aller.
Oui, j'ai eu un reportage il y a 6 mois sur un maire rural, un jeune d'une vingtaine d'années, qui est étudiant. Alors, je crois qu'il est étudiant sur Grenoble ou Lyon.
Le plus jeune maire de France.
Et ça pose quelques difficultés pour se rendre souvent à sa mairie, parce que entre ses études et faire l'activité de maire, mais c'est un jeune qui nous montre la voie de... Aujourd'hui, on peut être étudiant. Après, le problème de l'étudiant, c'est effectivement avoir les moyens de pouvoir faire ses études. Question financière, parce que ça, c'est un aspect difficile. Et si on dépasse ce stade-là, effectivement, derrière, c'est plus facile pour gérer, pour pouvoir s'occuper d'une mairie.
Et tout à fait, Gérard. Et comme je le dis... Aujourd'hui, un jeune, moi j'ai fait mes études aussi, j'ai été comme tout le monde, je suis allé à l'école. Mais bien que ça soit intéressant de savoir que Marianne était en 1515, un jeune maire, c'est plus important pour lui de savoir le budget qu'il va mettre pour sécuriser son bourg ou pour augmenter, pour refaire la classe de l'école. Ça me paraît aussi, dans l'histoire, quelque chose de moderne et d'innovant. Et puis d'avoir des idées. Donc quelque part, oui, on peut être étudiant, mais oui aussi, on peut être élu. Pourquoi ? Parce que moi, je suis élu depuis 2001. Et moi, depuis 2001, c'est une formation permanente. Permanente. C'est-à-dire tous les jours, j'apprends quelque chose. Des autres, de moi-même ou de l'actualité. Donc ça, quelque chose, moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Jamais, jamais vous n'aurez une formation aussi forte en étant maire que de rester à la maison.
Et il y avait... j'avais écouté aussi une émission qui était passée sur France Inter, à un moment donné, sur l'état psychologique des maires. Et il s'avérait qu'être maire, avait deux aspects positifs, c'est que la personne vivait plus longtemps, donc parce qu'elle était amenée à, elle avait un projet, des objectifs, un certain nombre de choses de réaliser, alors que quand on n'est pas mère, on n'a pas d'objectif. Être père, c'est se battre en permanence, avoir des objectifs, créer le bonheur des habitants de sa commune. Et ça, je crois que c'est des éléments qui sont à mettre en avant, et surtout avec des jeunes qui peuvent apporter beaucoup de choses dans une commune.
Mais forcément, ils sont beaucoup plus forts psychologiquement qu'une personne plus âgée. Ce qui est important, aujourd'hui, un maire, c'est plus, dans une commune rurale, c'est plus une dévotion qu'autre chose. Et c'est vrai que moi, personnellement, ce qui me pénalise le plus, c'est la vie familiale. La vie familiale, j'ai 7 petits-enfants, je suis marié depuis 40 ans. Et c'est vrai que quelque part, moi, ça lasse des fois mon épouse de savoir que sur une réunion de famille, je ne vais pas y être. Tout à fait ironiquement, mes petits-enfants m'appellent le « papy, t'es jamais là ». Donc ça veut dire quelque chose. Et en plus, j'ai 2 enfants qui ont eu la délicatesse de me faire naître mes petits-fils un 14 juillet. Alors vous voyez, je suis doublement pénalisé. Mais quelque part, alors il faut savoir, ça c'est important, il faut savoir se prendre des temps de repos. Moi je l'ai fait durant tout mon mandat. Je me réservais 2 fois 15 jours par an pour partir avec mon épouse et puis mes petits-enfants, de façon qu'il y ait une contrepartie du travail que je faisais à la commune. Mais que je le répète encore une fois, et je l'ai déjà dit à la radio, la commune pour un maire rural, c'est sa 2e famille. Et c'est ce que j'ai dit à la radio l'autre jour, parce que détruire un troupeau à un agriculteur, le troupeau d'un agriculteur, c'est sa 2e famille. Et c'est ça qui est indispensable et qui est inadmissible, de détruire des troupeaux ou au moins de ne pas écouter les agriculteurs. Et c'est pareil pour les maires. Moi, je le dis, on n'est pas écouté par les élites parisiennes. Et j'espère que Michel Fournier arrivera à faire un peu dévier ça. Ça va être très difficile. Mais c'est vrai que quelque part, ils sont dans leur tour d'ivoire. Et la ruralité, c'est quelque chose qui les dépasse. Ça, pour venir, ils disent « c'est très beau, le Périgord, mais qu'est-ce que c'est beau ?» Mais pour le défendre, c'est toujours nous qui le défendons, quoi. Et ça, c'est triste.
En gros, pour en finir, ne soyons pas les oubliés de l'État, quoi.
C'est exactement ce que... Mais la chanson veut tout dire. Nous sommes à l'heure actuelle les oubliés de l'État, mais pas que de l'État, parce que l'État, par lui-même... Moi, je m'en suis rendu compte. Je vais vous citer une anecdote. Michel Fournier, qui aujourd'hui est ministre, bien sûr, il a une voiture de fonction. Et lui, qui est un vrai rural, ne veut pas occuper ou très rarement occuper l'appartement de fonction qu'il a au ministère. Donc il rentre très souvent dans sa mairie, des Wavres, qui est pas grande. Et bon, chaque fois, bien sûr, il a, comme tous les ministres, il a un chauffeur avec la voiture. Et donc il est rentré avec son chauffeur et bien sûr 2 conseillers, parce qu'il est obligé de travailler malgré qu'il rentre chez lui. Donc il amène ses conseillers pour travailler à la mairie. Et le premier matin, et c'est lui qui m'a raconté cette anecdote, le premier matin où ces deux conseillers sont arrivés avec le chauffeur, ils lui ont dit « Monsieur le ministre, votre hôtelier dans votre village, il s'est trompé ». Ah bon, il s'est trompé, pourquoi il nous a fait payer que 50 euros la chambre? Vous voyez le décalage. C'est là qu'il a rigolé, il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, mais c'est le prix. Donc vous voyez que ces gens-là, ils sont déphasés. À Paris, ils payent des chambres à 300, 400 euros. Ils arrivent au Wavre, en commune de 350 habitants, ils payent 50 euros, donc ils ne comprennent pas. Donc ça, ces décalages, et il y en a d'autres, je pourrais en raconter comme ça beaucoup. Ça, ces décalages, ces gens-là, à Paris, ne le comprennent pas. Donc c'est pour ça qu'on est les oubliés de la République. Mais il faut être optimiste. Il y a une chose, ça c'est une chose que je voudrais dire. On a organisé, grâce à l'étincelle à Bergerac, le premier salon de l'emploi. Il y a eu 1600 jeunes qui sont venus à ce salon de l'emploi. Et j'ai été choqué parce que j'avais fait monter un stand du SDE 24, justement sur la recherche d'emploi. J'y suis allé travailler un peu avec eux. On a eu une centaine de jeunes, de jeunes et moins jeunes, qui ont postulé pour les entreprises qui travaillent pour le SDE. Et il y a 2 caractéristiques qui sont ressorties. La première, c'est que beaucoup de jeunes ou de gens veulent se reconvertir, donc leur métier ne leur plaît pas. Et la deuxième, qui est la bien particulière, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui travaillent à Bordeaux, qui en ont marre et qui veulent revenir dans la région bergeracoise. Ça, c'est un signe positif. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Bordeaux est engorgé, les logements sont trop chers, la mobilité est terrible.
Il n'y a pas de vieux.
Donc, ils se sentent mieux, dans un appartement. On est mieux dans un appartement à Bergerac ou à Périgueux que dans un appartement à Bordeaux.
OK. Ben, je te remercie, Alain. Nous allons clôturer cette émission. Et donc, on va renouveler à vos auditeurs tous nos voeux pour cette nouvelle année. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Le mois prochain, mais toujours avec cette épée sur la tête des élections. Donc, nous pourrons... déjà, on s'est affirmé aujourd'hui. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec les situations personnelles des maires. Et donc, quelque part, à partir du mois de mars, on reprendra le courant avec les autres maires, avec Brigitte. On amènera du monde. Et en même temps, je pense que Gérard a déjà pris position. Le ministre de la Ruralité va venir sur le Bergeracois, mais il a déjà prévu d'aller l'interviewer. Bravo, Gérard.
Donc on aura une émission spéciale avec le ministre. Merci à vous.
Voilà.
À bientôt.